Un code pénal à tranche dorée expédié par voie d'huissier avec tous les bravos du 9 place.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 16 avril 2014, il est oh là là, bien plus de 14h, c'est absolument incroyable, on n'arrivera jamais à commencer à l'heure, 14h02, Christophe Rollin au micro, je suis sans Gérald aujourd'hui mais je suis en fort bonne compagnie puisque François Bégodeau, grande célébrité, médiatique, vendéenne, enfin bref, je raconte absolument n'importe quoi, c'est lui qui se présentera dans quelques instants, une fois que le générique d'émission sera presque terminé et puis que nous aurons écouté un premier titre, il se présentera et surtout, bien entendu, il parlera du spectacle, de la pièce qu'il vient monter, jouer, je ne sais quel terme employer, Non réconcilié. Ça commence ce soir, mercredi 16 avril, jusqu'au samedi 26 au Théâtre des Célestins. C'est à 20h, 20h30 dans la petite salle. Écoutez, je me renseigne pour l'heure, je sais que ça dure une heure, cela porte sur le derby. Le match de football, Lyon-Saint-Etienne, et oui, nous allons parler un petit peu de foot aujourd'hui dans l'émission. Nous sommes bien sur Radio Canu, qui généralement ne parle pas beaucoup de foot. C'est le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet radiocanu.org. Jusqu'à 15h, le blues des Canus sera ensuite. Alors nous allons commencer par un premier titre, Debaser, des Pixies. Je crois bien que c'est le premier titre de leur premier album, il me semble. Nous en parlerons ensuite avec François Bégodeau. Pourquoi ce choix? Qui est-il? Que veut-il faire? Qu'aime-t-il? Enfin bref, il nous indiquera tout cela. Restez à l'écoute de Radio Canu et écoutez bien tout ce que nous allons dire. Je dis beaucoup écoute, vous allez voir, ça va être bien mieux que tout ça. deux basses, des Pixies, de Black Francis, Kim Deal, et puis je ne sais qui encore. Pourquoi ce titre? Eh bien, c'est parce que François Bégodeau, notre invité, pour parler de la pièce Non Réconciliée, qui commence aujourd'hui, mercredi 16 avril, et se termine le samedi 26 au Théâtre des Célestins, dans la petite salle qui se nomme, je crois, la Célestine. J'ai toujours pas trouvé l'horaire, promis, je retrouve l'horaire et je vous indique lequel il est. Donc François Bégodeau est avec nous pour parler, eh bien, de lui tout d'abord, puis de cette pièce ensuite. Et alors, enfin, voilà, peut-être une première question, peut-être toute bébête. Pourquoi ce titre de Beisser? Enfin, disons, c'est pas tant pourquoi, mais qu'appréciez-vous? Nous parlions à l'instant des paroles, ou je ne sais, ou... Bref, pourriez-vous, à travers ce titre, s'il vous plaît, nous parler de vous, François Bégodeau?
C'est pas les paroles, parce que les paroles, moi, dans le rock, n'ont jamais été premières. Ça veut pas dire que je m'y intéresse pas. Et par exemple, j'adore les paroles de ce morceau, mais c'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime d'abord parce que je l'entends et qu'il m'a complètement giflé, je dirais, quand je l'ai entendu pour la première fois. Et moi, je vois dans les Pixies, bon, d'abord, une espèce un très grand groupe, qui en plus a su injecter dans son rock de la fantasy, ce qui me paraît très important dans le rock. Et ce que parfois certains groupes dits de rock oublient un peu. Et puis surtout, je crois que c'est vraiment les Pixies qui nous ont fait sortir de cette espèce de catastrophe à la fois musicale, politique, économique, esthétique qu'ont été les années 80. C'est vraiment avec eux, moi je me souviens, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Puis après, 3 ans après, il y a eu Nirvana, et là on s'est dit, ça y est, c'est fini. Alors, le cauchemar est terminé, on va pouvoir de nouveau écouter de la musique, on va pouvoir de nouveau, et d'ailleurs beaucoup de choses se sont réinventées dans les années 90, que je trouve une décennie 1000 fois plus passionnante que les années 80.
Les années 80, c'est donc votre jeunesse. Alors vous parlez de fantaisie, est-ce que par exemple c'est ce que pouvait indiquer, je ne sais, par exemple, est-ce que c'est ce que pouvait indiquer le professeur d'éducation musicale dans votre bulletin quand vous étiez en classe de 4e, élève plein de fantaisie, ou enfin, je suis en train d'indiquer, les auditeurs le savent peut-être, que lorsque nous brossons le portrait de l'invité, nous commençons toujours par les bulletins des conseils de classe. Alors on essaie de, on laisse la 6e de côté. Non, je déconne totalement, je vous laisse évoquer comme vous le souhaitez votre enfance, adolescence, donc en Vendée, c'est ça, vous n'êtes peut-être pas natif, d'ailleurs nous laisserons cette question en suspens. D'où êtes-vous natif?
Je suis natif de Vendée, dans la Vendée Sud, qui est une Vendée plus républicaine que, je dirais, le nord de la Vendée, qui vaut au département sa réputation de réactionnaire, royaliste, etc. Bon, enfin bon, c'est pas quand même non plus des régions extrêmement progressistes, mais j'ai surtout grandi à Nantes, qui est la ville, la grande ville de la région, de la région Pays de Loire, dans le département de Loire-Atlantique. À un moment, quand j'avais 5 ans, mes parents nous ont fait monter à la ville, où ils pensaient qu'on pourrait davantage s'épanouir. Donc j'ai surtout passé 20 ans à Nantes, c'est surtout ça, de 5 ans à 25 ans. C'est-à-dire l'ensemble de mes études, on pourrait dire. Et puis après, bah voilà, les aléas m'ont conduit à Paris.
Vous avez parlé de Loire-Atlantique. Je ne sais plus quelle est la dénomination exacte du club de football qui jouait à une époque à Marcel Saupin, qui ensuite a rejoint la Beaujoire. C'est le FCNA pour Football Club Nantes-Atlantique.
Oui. Alors ce Nantes-Atlantique est arrivé dans les années, à la fin des années 80, début des années 90. C'était ouais. quand les régions sont devenues partenaires, tout ça. C'est historiquement, c'est le FCN, le FC Nantes, le Football Club de Nantes, cette grande équipe qui est aujourd'hui totalement, qui vit dans l'espèce de, comment dire, de nostalgie vaguement honteuse de sa splendeur.
Nous parlons de football parce que, bien entendu, ce sera le sujet de cette pièce Non Réconciliée, mais surtout le football vous tient un peu à cœur, j'ai cru comprendre. Est-ce que ce goût, cette passion, je ne sais comment nommer la chose, est-ce que cet intérêt pour le foot vous est venu précisément avec ce FCN, ou bien est-ce que c'est plutôt d'autres équipes, enfin, ou alors à quelle époque cela vous est-il venu?
Très banalement, quand j'étais gamin, je faisais partie de la moitié des gamins d'une cour de récré qui jouaient au foot, l'autre moitié détestant le foot. Voilà, moi j'aimais ça, j'y étais plutôt pas mauvais, quoi. Enfin, je savais quoi faire avec une balle au pied. Après, j'ai bien connu mes limites quand je me suis mis à en faire en club. J'ai bien vu que je ne serais pas donc Pelé ou Maradona. Mais oui, j'aimais jouer profondément, passionnellement au football. Et puis j'ai aimé le regarder à la télé. Et le club du coin, c'était le FC Nantes. Ce qui est assez, d'ailleurs, il y a quelque chose de très particulier avec le FC Nantes, c'est qu'il y a une forme d'éducation populaire avec le FC Nantes. C'est-à-dire, c'est toujours été un club, en tout cas dans ces années-là, qui avait un certain sens du jeu et un jeu qui se transmettait et qui passait beaucoup par le cerveau. Donc c'est un club qui m'allait bien. C'est-à-dire que c'était à la fois la tête et les jambes. Et les éducateurs du FC Nantes sont toujours des gens assez passionnants à écouter. Et je vous recommande des interviews avec Jean-Claude Suedo, des interviews avec Reynald Denouex, des interviews, s'il en reste, avec José Arribas, qui a inventé ce jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors je sais bien, vous en parliez en introduction, le football essuie souvent une certaine hostilité de la part des milieux, je dirais, de gauche radicale, dont je suis. Il y a une chose à sauver dans le foot, c'est vraiment le jeu. Voilà. Tout le reste, effectivement, est une espèce de d'avant-garde du pire du capitalisme. Mais il y a le jeu à préserver.
Magnifique transition que vous m'offrez pour justement parler de votre, comment appeler ça, votre autre, votre vraie vie ensuite après cette jeunesse nantaise. Vous êtes venu au football et il me semble que le titre de votre premier livre, Jouer juste, vous vient d'une, justement, une déclaration ou, je sais pas comment appeler ça, une phrase volée à précisément Jean-Claude Tuyaudot lors d'une mi-temps d'un match. Mmh. Donc vous entendez ce terme, jouer juste, alors que l'entraîneur de l'autre côté disait, les gars, faut les mettre minables ou je ne sais plus. Bref, vous écrivez donc ce premier livre et puis alors ensuite pourriez-vous, je ne sais pas forcément retracer toute votre bibliographie, mais indiquer, eh bien, quelques mots justement sur ce premier Jouer juste et puis des choses peut-être plus générales. Je l'ai également ici, ce Jouer juste. Moi, j'en ferai volontiers lecture de la première page. C'est très très fort. Il y a ensuite Julie qui intervient. Vous voyez, il y a mille questions qui viennent, la France à Bégodeau. Le foot, comment cela vous est-il venu? L'écriture, enfin, foot, vous avez répondu. L'écriture ensuite, Julie, Jeanne, je ne sais. Je vous laisse la parole parce que c'est assez confus ce que je dis. Donc, prenez donc la parole et indiquez, dites ce que vous souhaitez.
Disons que j'ai eu quand même très très vite, j'ai fait très très vite partie de ces jeunes gens qui ont dans l'idée un jour d'écrire un livre. On est très nombreux comme ça en France. Mais finalement j'y suis venu assez tard. Pourquoi ? Parce que j'ai fait du rock dans les années 90 et ça a retardé un peu le moment comme ça de me lancer dans l'écriture d'un roman. Mais à partir du moment où le groupe a splitté, même si le terme est pas adéquat, enfin il a fini, on va dire. J'ai commencé à écrire un premier livre qui s'appelait Jouer juste, effectivement, et qui était à la croisée de considérations, effectivement, sur le jeu, non pas tant sur le foot que sur le jeu, sur la tactique, sur la stratégie, et mais le cœur déjà névralgique ou le cœur affectif et peut-être le cœur stylistique aussi du livre était essentiellement quand même une histoire d'amour, une histoire de couple. Le foot n'étant qu'une espèce de chambre d'écho plus ou moins ludique et métaphorique de ce qui se jouait entre une certaine Julie et ce narrateur. La question étant de savoir comment s'organiser quand on s'aime. C'est-à-dire, j'essayais de déplacer la question traditionnelle de la littérature, qui est plutôt bon, est-ce qu'il s'aime, est-ce qu'il s'aime pas. C'est une question d'Ulysse dans la vallée, question de la nouvelle Héloïse, question de toutes les histoires d'amour, et question éminemment intéressante. Y a-t-il amour ? Là, c'était pas ça. C'était y a amour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Y a amour, indéniablement. Bon, et comment est-ce qu'on s'organise pour que l'amour ne devienne pas évite un certain nombre d'écueils qui lui sont presque collatéraux, quoi. C'était ça. Donc c'était presque un livre de stratégie amoureuse. Mais pas de stratégie de conquête à la Valmont, mais plutôt de stratégie d'organisation à deux pour fabriquer une cellule de couple qui soit digne, belle et durable.
Vous avez évoqué le terme de narrateur à l'instant. Je vous ai entendu un jour, ou alors est-ce que j'aurais lu cela, je ne sais plus, je parlais justement du narrateur et narrateur dans un autre ouvrage qui est celui-ci pour le coup, enfin disons, peut-être les précédents vous avez déjà rendu connu du public, mais alors le deuxième livre, surtout son adaptation, vous a accordé une immense gloire, cette Palme d'Or à Cannes. Je parle de Entre les Murs, livre sorti en 2006, film sorti en 2008, Palme d'Or également en 2008. Est-ce que, enfin, je vous avais entendu dire que vous aviez souhaité dans ce livre, non pas tant du tout faire quelque chose d'autobiographique, mais plutôt traiter un peu, parmi divers sujets, la question du narrateur, et vous aviez cherché à mettre ce narrateur en position de faiblesse, ou je ne sais pas comment nommer cela, en position défavorable, ou position, enfin, une sorte d'infériorité. Est-ce que, dans ce livre-ci, certes, mais bien entendu, et également dans d'autres, est-ce que cette question du narrateur vous semble importante? On pourra ensuite peut-être reprendre cette question pour la pièce, parce que vous êtes bien ici présent pour une pièce, non pas la lecture d'un de vos romans. Donc, cette question du narrateur, que ce soit dans Jouer juste, cet entraîneur de football à la mi-temps des prolongations d'un match de Ligue des Champions. C'est intéressant, j'ai entendu parler de football, alors qu'il m'avait semblé comprendre dans une interview que vous étiez également grand pratiquant et grand fan de handball, mais non, là pour le coup c'est peut-être plutôt une forme d'humour. Il me semble qu'il y a des handballeurs, je crois même que peut-être certains sont à l'écoute. Donc le football, c'était la mi-temps des prolongations de cet entraîneur Jouer juste. Est-il dans ce livre en position un peu d'infériorité, cet homme qui harangue ses joueurs, qui parle de Mickaël et Frédéric, on aura reconnu Mickaël Landreau et puis Frédéric Darrocha. Donc ce narrateur, est-ce vous aussi également qui parfois souhaitez apparaître en position de faiblesse? Enfin, je ne sais pas.
C'est des considérations. D'abord, je veux rectifier, c'est Reynald Denouex qui a dit Jouer juste et pas Jean-Claude Tuyaudot. Ça, c'est pour les puristes qui écouteraient, on s'en fout un peu. Non, cette question, elle est éminemment littéraire pour moi, et elle est littéraire là où les formes esthétiques parfois croisent des considérations politiques. Je m'explique très concrètement. Je suis, ça m'est venu un petit peu de la crise critique de cinéma et d'une certaine réflexion sur le cinéma, c'est dans quelle position est l'auteur d'une œuvre, quoi. Et je trouve que la position d'un auteur est toujours une position de monarque. Et quand on est un démocrate comme moi, un démocrate profond, biologique, épidermique, et non pas simplement comme ça pour dire que la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, ce qui est quand même une défense de la démocratie un petit peu, faible... quand vous êtes vous êtes vraiment dans une position d'omnipotence quand vous êtes un auteur, et notamment un auteur de littérature, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'un cinéaste sur un tournage, il est constamment confronté à un certain nombre d'altérités, l'altérité des acteurs, l'altérité du temps qu'il fait, l'altérité de son chef-op qui est de mauvaise humeur ou qui fait pas exactement ce qu'il veut. Un auteur de littérature, il est vraiment maître à bord. Dieu sait si la position de l'auteur dans la société de l'auteur de littérature est très faible. C'est pour ça que quand vous dites grande célébrité, je rigole amèrement en voyant voyant mes chiffres de vente. Mais en tout cas, quand on écrit, on est vraiment, je suis maître à bord, je peux tout dire, c'est-à-dire je peux tordre le réel à ma guise et il n'y aura pas de contre-pouvoir, pour filer la métaphore. Donc c'est vrai que je me suis vu spontanément, puis de façon plus méthodique au fil de mes livres, développer des narrateurs faibles. Ce que j'appelle des narrateurs faibles, c'est-à-dire des narrateurs qui ont tendance à subir les situations beaucoup plus qu'à les contrôler, à les infléchir. Et par exemple, dans le cas d'Entre les Murs, j'étais quand même triplement omnipotent. J'étais à la fois l'auteur, le narrateur et un personnage qui était un prof. Lequel prof est effectivement dominant dans sa classe. Quoi qu'en disent certains, les profs sont débordés. Enfin, les profs, à n'importe quel moment, ils peuvent virer un élève. Donc c'est vraiment ce que j'appelle, quand on dit que l'État est celui qui a le monopole de la violence légale, hein, vous savez, c'est une formule très très connue. Je veux dire, dans une classe, le prof, aussi débordé soit-il, a le monopole de la violence légale. Hein, c'est-à-dire qu'il peut exclure ce que montrait très bien le film, j'espère. Donc là, j'étais en triple position de pouvoir, et c'est pas possible. Donc j'ai eu tendance à vraiment écrire le livre en essayant de constituer un narrateur le plus faible possible, un personnage le plus faible possible, le mettre plutôt dans des situations où il est débordé, ou etc. Et puis surtout faire une narration particulièrement froide, c'est-à-dire, on ne peut rien savoir de qui est ce prof, il ne parlera jamais en son nom pendant tout le livre, c'était vraiment le parti pris formel du livre, il ne fait jamais de commentaires. On ne sait pas du tout quelle est sa vie à l'extérieur, on ne sait pas quels sont ses amis, on ne sait pas s'il est marié.
Il s'arrête à une brasserie régulièrement.
Il s'arrête à une brasserie régulièrement, ce qui est pas non plus une confidence autobiographique décisive.
Il parle de Vendée, une élève d'ailleurs lui réplique, mais c'est pas un peu chez les paysans ça d'ailleurs.
Après je me suis amusé à injecter des petites informations, mais qui encore une fois ne définiront pas ce personnage. Donc c'était
votre
plus
goût pour Green Day.
Ce personnage était plus une espèce de coquille vide qui recevait un certain nombre d'informations, de situations. Il était un peu le réceptacle, en fait. Chose que j'ai eu tendance à reproduire par la suite, parce que c'est un mode de narration avec lequel je suis plus à l'aise qu'encore une fois tous ces narrateurs qui non seulement ont la main, mais en plus passent leur temps à nous inonder de considérations sur la vie, que le lecteur est censé boire comme ça, comme autant de vérités révélées. Donc ça, c'est pas ma façon d'écrire, je dirais.
Alors, enfin, moi, il me semble que c'est beaucoup plus net dans le film que dans le livre. Dans le livre, je trouve que cette position de narrateur qui n'est pas à ce point faible ou en position de non pas tant de monarque alors mais de sujet. Il me semble que dans le film, en revanche, ça apparaît très clairement. Là, oui, c'est peut-être d'ailleurs votre jeu. L'acteur, le personnage me semble vraiment effectivement mis souvent dans des situations où il ne sait pas très bien comment faire les choses. Dans le bouquin, ça me semble les moins évident. Enfin bref, ça c'est seulement affaire de goût. Peut-être pourrions-nous évoquer un autre livre, puisque nous sommes en train de dresser plus ou moins votre bibliographie, cet anti-manuel de littérature. Donc justement, est-ce que je l'ai ? Avouerai-je que je l'ai feuilleté, mais je n'ai pas pu assez le lire, certes, depuis que je l'ai, et puis également pour préparer cette émission. Mais dans ce livre, établissez-vous aussi ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir des sortes d'idées que vous auriez sur la littérature et cette envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, renverser certaines choses ou concernant ce narrateur ou d'autres éléments, puisqu'il a eu un autre livre ensuite, je crois, Tu seras écrivain. Ça, pour le coup, je n'ai pas du tout mis la main dessus.
Bah, l'anti-manuel, c'est une commande. On m'avait, voilà, parce que c'est une collection qui existe. Il y avait eu l'anti-manuel de philo, dont Frey, ils m'ont proposé de faire l'anti-manuel de littérature. Je me suis lancé dans cette grosse aventure qui est quand même compliquée. C'est un livre assez inécrivable pour plein de raisons. C'est qu'il est censé s'adresser aux très initiés comme aux non-initiés, à ceux qui auraient fait des études de lettres durables et donc qui auraient un certain nombre de référents. Ça les rend pas plus intelligents, hein, mais simplement il y a des références qu'ils peuvent davantage comprendre et d'autres qui seraient un peu plus béotiens. Donc c'était un peu compliqué. J'ai essayé d'alterner dans le livre entre des choses, disons, caustico-potaches que ouais, j'aime bien voilà. faire.
Potaches, il y a des notes notamment.
Et des choses beaucoup plus, j'espère, consistantes, sérieuses, où j'essayais d'expliquer ce qui, moi, me paraissait le cœur de la littérature, à moi, quoi, en tant que praticien, presque, et en tant que lecteur. Bon, c'est vrai que l'un, d'ailleurs, s'indossait à l'autre, parce que je trouve que le problème avec la littérature, c'est qu'il y a énormément de mythologie qui s'y attache, et du coup, on parle jamais de ce qu'elle est réellement. Et ce qu'est réellement la littérature, ça n'est rien d'autre que des phrases. La littérature, ça n'est que ça. C'est beaucoup, mais ça n'est que ça. Donc quand on dit la littérature, c'est ceci, je m'amuse à me moquer dans le livre de tout un tas de choses. La littérature serait parler à la place du silence, ou ce genre de phrases débiles qu'on entend en permanence, et qui prennent la place, hélas, de ce qui serait la vraie analyse et le vrai rapport à la littérature, qui serait, mais qu'est-ce qu'il y a sur la page, quoi? Et qu'est-ce qui fait... Notamment pour moi, la vraie question très simple et en même temps très compliquée à résoudre et autour de laquelle je tourne pendant longtemps dans ce livre, c'est qu'est-ce qui distingue un énoncé littéraire d'un énoncé non littéraire ? C'est-à-dire que voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre question. Pourquoi est-ce que la phrase de Flaubert est littéraire et pourquoi est-ce que la phrase de Guillaume Musso, pour prendre un exemple un peu canonique, ça m'embête un peu de le piétiner encore, ce pauvre Guillaume Musso qui est devenu l'emblème de la médiocrité. Mais je n'ai pas d'autre exemple, hein, en l'occurrence.
Ah, il y a Marc Lévy, on les associe.
Oui, voilà, en général, c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. Donc je m'excuse auprès de Guillaume Musso,
Catherine
qui sans
Pancol,
doute n'écoute pas. Oui,
Catherine Pancol. Femme. Voilà,
non, mais c'est voilà, ce genre de réflexe, j'aime pas beaucoup ça, donc je m'excuse d'y avoir cédé à mon tour. Mais c'est tout ça pour aller vite et essayons de regarder les phrases, quoi. Voilà. Moi, je vois pas d'autre façon d'étudier la littérature que de regarder comment c'est écrit. Comme quand on regarde un tableau et tout de suite, vous reconnaissez un Picasso à sa facture, quoi. Hein, la façon dont c'est peint. C'est pas autre chose. Pas ce que Picasso avait à nous dire sur la vie, la mort. La littérature, pour moi, c'est pareil, quoi. Ça se reconnaît à une, il y a une patte, quoi. Il y a une patte, il y a un style. Et c'est ça qui est c'est le seul truc important dans la littérature, c'est ça. Moi, je suis un grand défenseur du texte, j'ai une chronique dans Transfuge que j'ai appelée le nez dans le texte et qui ne parle de rien d'autre que de la phrase des auteurs. Donc moi, quand je parle des schnauzes, c'est pas pour nous expliquer qu'Eschnauz pense ceci ou cela de la vie, c'est pour expliquer pourquoi j'aime tellement le lire et pourquoi j'aime tellement être en contact avec sa phrase, avec sa, pourquoi ça m'est immédiatement familier, comme quand j'écoute les Pixies ou les Sex Pistols, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà.
Il y a un truc qui marche ou qui ne marche pas. Et donc souvent, pour ceux que vous avez nommés, on peut dire que ça marche. Je vois que le temps tourne, il serait peut-être temps d'aborder un peu cette pièce non réconciliée. Alors je me dis, zut, en une minute peut-être encore, ou à peine plus, qu'est-ce que nous pourrions encore dire? Que pourriez-vous, vous François Bégodeau, dire pour davantage, pour vous faire connaître, ou pour indiquer qui vous êtes, pour indiquer, qui est cette personne qui a écrit et qui joue dans la pièce non réconciliée? Vous parliez à l'instant d'une chronique dans Transfuge. Lapsus qui aurait un sens à voir. Il y a également une chronique que vous tenez dans Le Monde avec la dernière livraison dans Le Monde, Supplément Sport. C'est une fois par mois, je crois, c'est ça? Si vous alternez avec.
Voilà, j'alterne. Moi, j'écris une fois par mois, ouais.
Le Couturier, puis Sophie Aram, je crois. Ou alors, c'était peut-être à une époque, Sophie Aram. C'est Michel Lévesque, ou enfin, je sais plus, Christophe Lévesque.
Arnaud
de sa mère.
Voilà. Et puis, il y a aussi Patricia Masvi, mon ami cinéaste, qui fait une chronique aussi tous les mois.
Est-ce que cette dernière chronique était sur Marinette Pichon? Pourrait-elle devenir sélectionneuse de l'équipe de France? Est-ce que ces chroniques pour vous, que ce soit Transfuge ou bien Le Monde, ou alors vous parliez à une époque des Quais du Cinéma, ou enfin vous avez écrit à une époque dans les Quais du Cinéma, est-ce que ce sont des occasions pour vous de dire des choses? Enfin, je ne sais même pas, c'est ça qui est intéressant, je ne sais même pas quelles questions poser, mais que sont ces chroniques pour vous?
Bon, moi, je suis comme les hommes politiques. Vous savez pas quelles questions poser, mais je sais quelles réponses apporter, quoi. C'est l'école Georges Marchais, hein. Je veux dire, moi, qui était mon idole, hein, quand j'avais 7 ans. Je distinguerais vraiment entre tous ces trucs, quoi. Les cahiers du cinéma, c'est une vieille affaire.
Ça n'est pas terminé?
Si, c'est fini. Je suis parti en 2 minutes, mais je continue à faire de la critique de cinéma. Disons, la critique de cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'il y a 20 ans, je voulais faire. Je veux dire, j'adorais le geste critique. Ça m'intéressait beaucoup. Je lisais les cahiers. Pour moi, regarder un film était indissociable d'une sorte sorte de geste analytique, c'est-à-dire mais pourquoi est-ce que j'aime ce truc, pourquoi est-ce que je l'aime pas, essayer de comme ça d'élucider les choses, d'observer les formes aussi, comme je viens de le dire pour le texte, quoi. C'est, qu'est-ce que c'est que la mise en scène d'Hitchcock, qu'est-ce que c'est que la mise en scène de Piala, quoi. Donc ça, c'est une vieille affaire, et j'ai fini par, à la fois par chance et pas chance, à écrire dans les cahiers du cinéma, et j'ai pas voulu renoncer à ce travail critique à partir du moment où j'aurais pu faire autre chose, enfin en termes d'argent et en termes de plein de choses. Donc je continue à le faire parce qu'il continue à me passionner. Les chroniques, c'est autre chose, c'est des suggestions extérieures, des gens du monde, bon, avaient lu Jouer Juste, je crois, ou m'avaient entendu parler de foot, oui, de sport.
Ça fait quelques temps, hein, vous étiez, déjà à l'époque d'Entre les Murs, vous étiez d'ailleurs, il y avait eu le changement qui avait été fait bien à la fin mai sur François Bégodeau est écrivain, ils avaient rajouté la mention juste après Festival de Cannes, et il est l'auteur d'Entre les Murs, dont l'adaptation vient d'avoir la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Oui, ça fait partie du comment dire, de la grande farce journalistique dont il faudra un jour écrire le livre et qui ferait à peu près 30 000 pages. Moi je laisse dire, hein, je laisse faire, hein, je peux pas lutter.
Mais ça fait quelques temps, oui, c'était Confession d'un...
Mais cette chronique oui, c'est un espace pour moi, bon, d'abord parce que je pense que le sport est un domaine extrêmement intelligible, un domaine de haute intelligibilité, comme dirait Alain Badiou, c'est-à-dire qu'il y a des choses à penser dans le sport. J'ai même dirigé des livres sur le sport, etc., sur sport et politique, sur le sport par les gestes, etc.
Le geste, voilà.
Et où ça devient passionnant, c'est que le sport est évidemment un symptôme, c'est-à-dire que vous observez le sport et vous comprenez, c'est pour ça que je dis toujours à mes copains de gauche radicale, les gars, je vois bien comment ça peut vous débecter le sport, mais je vous assure, observez le sport comme vous observeriez les rapports de production dans le champ économique, quoi. Dans l'industrie, où c'est une zone d'observation de la société extraordinaire, une zone de visibilité de la société extraordinaire, et à partir du sport, on peut tirer toutes les plots. Donc, par exemple, la dernière chronique en date, j'intervenais sur la théorie du genre, par exemple, à propos du constat, je voyais quand même que toutes les sélections nationales féminines en France sont dirigées par des mecs. Là, c'est quand même un drôle de constat que personne ne fait jamais et qui, moi, me débecte, quoi. Je trouve ça hyper paternaliste. Vraiment, ça me choque, quoi. On pourrait dire que ça me choque au sens épidermique du terme. Donc, j'écris là-dessus et c'est l'occasion de titiller un peu nos amis anti-théorie du genre, là, qui se sont agités, là, depuis 3 mois, là. C'est un petit peu ces gens, bon, bah, qui visiblement s'ennuient beaucoup, qui avaient très, très, très envie d'avoir une cause comme ça. Et finalement, je pense que si on mettait bout à bout toutes les chroniques que j'ai pu écrire depuis 6-7 ans dans Le Monde, je pense que ça reconstituerait... ça finit par configurer une sorte de mosaïque libertaire, je dirais, puisque c'est un courant de pensée ou un mode de pensée qui m'est assez familier. Donc finalement, qu'on parle du sport ou de gastronomie ou de cinéma ou d'autres, bah oui, bien sûr, il y a toujours une sensibilité qui s'exprime et des idées qui finissent par frayer à travers l'objet, quoi.
Prodigieuse, j'ai déjà sûrement dû employer cet adjectif, une magnifique transition pour la pièce Non Réconciliée que nous allons davantage présenter, dont nous allons parler, débattre, enfin je ne sais quel terme employer, oui d'ailleurs le terme est peut-être dans la pièce elle-même avec le personnage de Michel, c'est ça je crois, Michel le type du Sud.
J'ai un trou d'un seul coup.
On va revoir, je reprends le texte, le temps d'écouter.
Talking, il s'appelle Pirandelli, ça c'est sûr, mais j'ai oublié son prénom, ce qui est dommage parce que je dois le dire ce soir, son prénom, donc il faudrait très vite que je relise la pièce.
Donc Talking About, est-ce que, voilà, je m'étais proposé, est-ce un jeu de mots, enfin en tout cas c'est très mauvais, Talking About My Derby, non, c'est Talking About My Baby, un titre de Fightboy Slim dans son album Halfway Between the Gutter and the Stars, je crois que c'est le dernier album, ou l'avant-dernier peut-être.
L'avant-dernier, je dirais, oui.
C'est la piste qui introduit l'album, donc nous écoutons, nous allons retrouver les prénoms dans le texte. Moi, je viens de retrouver l'horaire, c'est bien à 20h30.
Oui.
Tous les soirs, relâche le lundi, et le dimanche, c'est à 16h30, cette pièce Non Réconciliée, pour laquelle François Bégodeau est venu nous parler dans l'émission Spectaculaire sur Radio Canu. Vous aviez tout à l'heure le regard, me semble-t-il, qui se perdait un peu dans le vide, ou alors qui constatait cette couleur rouge dans les studios de Radio Canu. N'oubliez pas le slogan de Radio Canu, la plus rebelle des radios, libertaire, anarchiste, et tutti quanti.
La la la.
Laisser le titre enchaîne avec la piste suivante qui je sais même plus ce que c'est, ce que je l'ai sous les yeux, Star, et je crois qu'on entend d'ailleurs Fatboy Slim qui dit quelque chose. Bref, Fatboy Slim, pourquoi l'écoutons-nous? Parce que je ne sais plus à quel endroit j'ai vu que François Bégodeau l'avait inscrit dans une sorte de playlist ou anti-playlist, ou alors ceux qui ont échappé à la playlist, enfin je ne sais plus très bien. En tout cas, François Bégodeau, lui, je sais qu'il est en face de moi pour parler de la pièce Non Réconciliée qui commence ce soir. D'ailleurs, merci à lui en ce jour de première d'être tout de même présent dans l'émission spectaculaire sur Radio Canut pour parler de cette pièce. Eh bien, nous avons un peu brossé donc le portrait. On va sûrement continuer à parler de vous-même, puisque moi, il me semble que dans cette pièce, à la manière, je crois, Paul Morand dans une phrase, non pas Paul Nizan, vous en parliez dans le manuel d'antilittérature, mais Paul Morand, je ne sais guère que parler de moi. C'est l'impression que j'ai eue un peu en lisant le texte, que cette pièce Non Réconciliée, qui est donnée au Célestin de ce mercredi 16 avril jusqu'au samedi 26, 20h30 en soirée, 16h30 le dimanche, relâche le lundi. Donc il me semble que cette pièce, donnée dans la salle La Célestine, la salle qui est un peu plus petite que la grande salle, il me semble que cette pièce, certes, parle du foot, on va en parler, parle du derby Lyon-Saint-Etienne, mais il me semble qu'elle parle beaucoup de vous. Alors ce n'est pas la question que je vous lance comme ça, c'est plutôt quel terme souhaiteriez-vous emprunter, prendre pour qualifier cette pièce, et puis oui, peut-être pourquoi pas, c'est cette sorte de réponse. Est-ce que parlez-vous de vous,
je sais pas si elle parle de moi, je sais pas si c'est l'expression exactement. En tout cas, je l'ai écrite. Et que ma foi, effectivement, à partir du moment où je l'ai écrite, eh ben, elle est imprégnée de ma sensibilité. Elle est imprégnée. Je veux dire, si jamais on admet que cette pièce a un caractère humoristique, ce qui s'embête le cas, si j'en juge par certains rires, bon, bah, c'est mon humour. Je veux dire, bon, voilà. Alors après, il est à prendre ou à laisser. Hein. On n'est pas obligé de l'adorer. Hein. C'est ma façon d'écrire, c'est ma façon de distribuer les rôles. C'est ma façon d'organiser ce que j'appelle une sorte de pièce chorale. C'est une espèce de partition à quatre voix, des voix contradictoires. Donc oui, bien sûr, il y a une sensibilité qui s'exprime. Par ailleurs, la pièce, sous couvert, je dirais, de partir de football, de derby, de Lyon-Saint-Etienne, finit par interroger qu'est-ce que ça veut dire la bourgeoisie? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant le bobo, par exemple? Est-ce que le signifiant bobo n'aurait pas pris la place du signifiant bourgeois? Où est-ce qu'on en est de la lutte des classes? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la ville ouvrière? Où en est la France? Qu'est-ce que ça veut dire, une France désindustrialisée? Bon, bah là, on aborde de façon toujours un peu, je crois, rapide et j'espère pas dissertative, sinon ça serait pas du théâtre. Mais tous ces thèmes-là sont effleurés. En tout cas, ces questions-là sont posées à un moment ou à un autre de la pièce. Et oui, je pourrais dire que ce sont des questions qui me sont chères. Mais j'allais dire CQFD, quoi. Je veux dire, dans une pièce de François Bégodeau, oui, non, il se trouve que les thèmes abordés sont assez chers à François Bégodeau. C'est pas, voilà.
C'est un peu évident, mais il me semble que, enfin non, bref. Ce que nous pourrions faire tout de même, c'est parler très précisément de cette pièce, c'est-à-dire la distribution, par exemple, présenter un peu les personnages, celui que vous incarnez, sur scène. Donc, mettons, nous sommes ce soir 20h30, mercredi 16 avril, le rideau... Non, même, c'est intéressant, le rideau est déjà retiré, ouais. Puisque les acteurs sont déjà... Enfin, les comédiens sont déjà sur scène, nous parlons de théâtre, et ils sont en train de... Vous avez décidé, ou il me semble que c'est dans le texte, il est indiqué que c'est libre à eux de faire comme ils le souhaitent, ils se maquillent ou bien se maquillent les uns les autres, donc ils sont déjà présents, et qui sont-ils, donc, ces gens sur scène?
Quand on écrit une pièce, on a parfois des indications de scénographie, de mouvement, etc., le metteur en scène en dispose comme il l'entend, même quand il se trouve que là l'auteur est sur place, puisque Mathieu Cruciani, le metteur en scène, m'a demandé de jouer dans la pièce.
Nous n'avons pas encore évoqué son nom, Mathieu Cruciani, oui.
Qui est d'ailleurs avec qui j'ai conçu la pièce pratiquement, hein. Je veux dire, conçu, non pas écrit mais conçu, c'est-à-dire qu'on en a déjà d'abord beaucoup parlé tous les deux, que comment est-ce qu'on pourrait s'orienter, on avait comme ça des thèmes communs, des obsessions communes, par exemple le constat qu'on faisait pendant la présidentielle de 2012 et avant, que les émissions de talk sur le foot ressemblent comme deux gouttes d'eau à des émissions de talk politique, que c'est la même chose, que c'est la même rhétorique, la même organisation, le même théâtre. Et donc, partant du constat que tout ça était du théâtre, on se disait, mais on peut en faire une pièce, même si ça pouvait paraître impur. Donc oui, il y a quatre personnages. Moi, Mathieu m'a demandé de jouer dans la pièce, j'ai hésité, je voulais pas un peu... c'est pas vraiment mon métier de faire ça, mais un petit peu par amitié pour lui et aussi par excitation, j'ai accepté de le faire. Il m'a donné le rôle de l'expert, parce que dans tout débat, vous savez que maintenant, il y a un expert. Alors l'expert, c'est celui qui prétend toujours être au-dessus des opinions, vous voyez. Ça serait un petit peu une espèce de Platon dévoyé, de la même façon que Platon, cet antidémocrate, avait beaucoup de mépris pour les opinions. Ça, c'est pas le ciel des idées, ça, c'est pas la vérité avec un grand V, vous n'avez que des basses opinions. C'est ce que Platon ne cesse de dire sur l'Agora, c'est-à-dire que c'est vraiment un antidémocrate, hein, il l'a théorisé. Alors l'expert serait sa version dévoyée, je dirais sans le talon de Platon, qui prétend toujours dans un débat être au-dessus de tout le monde. L'expert en chef étant devenu évidemment François Langlais, hein, pour ceux qui regardent encore la télévision officielle, la télévision, cette espèce de robinet idéologique qui est devenue la télé de service public, c'est lui qui arrive à un moment toujours avec ses courbes pour dire à Jean-Luc Mélenchon, oh, ça suffit, soyez réaliste, et pour dire à Marine Le Pen, ça suffit, soyez réaliste, ou pour dire à tous les autres, sauf peut-être ceux qui sont centre-gauche ou centre-droit. Et d'ailleurs, à un moment dans la pièce, ce soi-disant expert que je joue avec une grande délectation parce que ça me permet de régler mes comptes avec cette race de l'intérieur, fera son coming out libéral, en fait. Depuis le début, il dit, moi je suis au-dessus des opinions, je n'ai pas d'opinion, je ne suis du côté de la vérité, du côté de ce qu'il appelle toutes les études montrent que, et puis en fait finalement on s'aperçoit, bah oui, c'est un libéral, quoi.
Vous l'avez nommé, ce personnage?
Il s'appelle Rabage parce qu'il a quand même un truc pour lui. Tous les personnages sont mélangés, voilà, un petit peu comme un rabat-joie, parce qu'il a au moins ça pour lui, Rabage, de résister un peu au dispositif. C'est-à-dire que le dispositif est vraiment fait pour créer de la polémique pour la polémique, hein, c'est une émission de radio ou de télé, indifféremment. Et on voit bien que, alors pour le coup, le présentateur qui s'appelle Marcel Pirandelli, je me suis un peu marré dans les patronymes.
Que moi j'ai appelé Michel, n'importe quoi, c'est Marcel Pagnol.
C'est Marcel quand même, je respecte un petit peu le texte. Ça pourrait être Marcel Pagnol parce qu'il a une faconde un peu libérale qui pourrait être inspirée du dénommé Eugène Saccomano, pour ceux qui le connaîtraient.
Bah, on refait le match, hein, ça s'appelle l'émission plus ou moins. Voilà. On refait la soirée. Enfin,
on refait le match qui est devenu. On refait le monde. On parlait de foot, oui. Et maintenant on parle de l'actualité. Et c'est la même chose, c'est le même dispositif. Et ce présentateur, il n'a qu'une idéologie, lui, c'est le débat. C'est un débattiste. C'est un débattiste. Il est pour qu'il y ait du débat. Lui, ce qu'il veut, c'est de la polémique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en fréquentant un peu les journalistes, je dirais, mainstream, hein. Pas ceux qui font vraiment le vrai métier de restituer le réel. Ces gens-là, on dit souvent qu'ils sont de droite ou ceci ou cela. En fait, non, c'est pas vrai. Ils sont polémiquistes. C'est-à-dire ce qui les intéresse. C'est-à-dire qu'eux, ils seraient prêts à inviter un mec d'extrême gauche. Ils auraient aucun problème avec ça, alors que du moment qu'ils fassent un peu le spectacle, du moment que c'est pour ça qu'ils adorent Mélenchon, par exemple, et dont ils détestent les idées profondément. Hein, je veux dire, ils sont très anti-mélenchoniens. En revanche, ils l'invitent beaucoup parce qu'ils savent qu'il va faire le métier, quoi. Il va créer de la polémique. Et donc, on a ce présentateur. Et à ce titre-là, mon personnage de Rabage est un peu rabageois, puisque précisément, lui, il est anti-débat, puisqu'il n'arrête pas de dire, mais écoutez, les gars, il y a pas débat, puisque il y a des courbes. Il y a des faits, il y a la vérité de l'économie. Donc il y a une petite bisbille qui fait son chemin pendant toute la pièce entre ce présentateur Pirandelli et le dénommé Pierre-Antoine Rabage.
Là, je crois que c'est l'une de ses premières phrases, me semble-t-il. La première, c'est « Bonsoir, monsieur Pirandelli ». La deuxième, oui, disons qu'en qualité d'expert, j'aime injecter un peu d'expertise dans le débat public qui manque cruellement d'experts et d'expertise. Mmh. Il se sent, je crois, remarquablement en dehors, au-dessus de cette mêlée. C'est très bien, là, nous avons, je pense, bien brossé les portraits, nous avons bien indiqué qui étaient Marcel Pirandelli et Pierre-Antoine Rabage. Maintenant, il nous manque les deux invités de ce débat. Comme nous parlons d'un match de foot, le derby Lyon-Saint-Etienne, eh bien, il y a un pro-lyonnais et puis une pro-stéphanoise. Mais il y a quand même plus que ça qui se joue dans ces personnages.
En même temps, je voulais qu'il y ait un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'avec Mathieu Cruciani, on s'était vraiment entendu pour faire une part à toutes les facettes du problème et à tous les théâtres que ce problème peut produire. Depuis le théâtre purement farcesque et très très gaulois, et très méridional aussi, de « Allez, je suis lyonnais, et toi t'es stéphanoise, et on va s'en mettre plein la vue, et on va se balancer des arguments de mauvaise foi », ça serait le côté un peu gaulois banquet. Mais on voulait qu'il y ait ça, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de mettre ça sur un plateau de théâtre. Et puis c'est vrai qu'on voulait aussi qu'à un moment, le débat se muscle un petit peu quand même, et qu'on en arrive un peu au fait, quoi, et qu'on laisse un peu le folklore... derby, machin, les verts d'un côté, les bleus, rouges de l'autre, et qu'on en arrive un peu, qu'est-ce que c'est que cette rivalité entre deux villes? Qu'est-ce que ça vaut encore maintenant, une rivalité entre deux villes? Est-ce que ça serait pas un folklore aussi? Est-ce que Saint-Etienne est vraiment aussi autant une ville ouvrière qu'on le dit, alors qu'il n'y a plus du tout d'industrie à Saint-Etienne? Est-ce que Lyon est vraiment une ville aussi bourgeoise qu'on le dit, alors que quand même, il y a aussi une tradition anarchisante à Lyon? Visiblement, cette radio en porte le témoignage. Donc voilà, il y a un moment, ça va se compliquer un peu cette affaire, et puis finalement, on en arrivera aussi à questionner, comme je le disais tout à l'heure, les problématiques comme qu'est-ce que ça veut dire la lutte des classes, quoi. Est-ce que ça a encore un sens? Ce que je crois profondément, mais j'écris pas des pièces pour asséner des certitudes. J'essaie plutôt d'écrire des pièces pour déplier des questions. Où est-ce qu'on en est avec cette histoire de lutte des classes, quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire classe sociale maintenant? Voilà, c'est un petit peu le glissement qui est opéré par la pièce.
Et me semble-t-il, cette question apparaît davantage à la fin avec la prise de parole de plus en plus importante de Sarah Straub. Hommage à Jean-Marie, c'est ça? Ou Straub et Daniel...
Jean-Marie Straub, Daniel Huillet, qu'on appelle Les Straub, ce couple de cinéastes marxistes, auteur d'un premier film qui s'est appelé Non Réconcilié. Hein, ce titre est... J'avais aucun risque qu'on m'emmerde avec ce titre, puisque personne n'a vu ce film, à part On était 8, je me souviens. Enfin, il est sorti en 62, donc je n'y étais pas, mais je l'ai vu rétrospectivement. Je conseille à tout le monde les films de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Mais...
Sarah est la femme stéphanoise, et puis Gilles Bienheureux à côté, le pro-lyonnais. Donc voilà, vous évoquiez lutte des classes. Est-ce déflorer la pièce que d'indiquer que c'est davantage le propos, enfin c'est ce que vous avez dit à l'instant, qu'il y a une partie du débat où les choses commencent davantage à se muscler, des propos plus importants, enfin je ne sais pas comment les nommer, plus peut-être moins portés sur les blagues ou sur les
donc on va dire qu'ils se rapprochent un peu de l'os, quoi, peu à peu. Voilà, ouais. C'est comme dans une discussion, quand vous savez, on commence par parler de prétexte. C'est un petit peu comme dans les scènes de ménage, il y a un prétexte, ah, t'as pas ramené le pain, je prends vraiment un truc bidon, hein. Et puis peu à peu, au bout de 3 heures de scène de ménage, mais en fait, je crois que je ne t'aime plus. Et là, c'est pareil, finalement, le folklore stéphano-lyonnais ne serait qu'une première devanture pour en venir au fait, et on va s'apercevoir que cette Sarah Straub est habitée par des problématiques un peu plus profondes que la stricte défense folklorique du fait que les Stéphanois se font toujours blouser par les Lyonnais parce que les Lyonnais, ils achètent les arbitres, etc., etc. Et enfin, disons qu'on passe de la cour de récré à quelque chose qui serait plus proche de l'agora.
Pour avoir été pour avoir assisté à ce dernier derby hein, qui en plus se déroulait au stade de Gerland. C'est terrible, je crois que c'est davantage les Lyonnais qui se sont fait voler. Non, je ne pense pas non plus vraiment entrer dans ces considérations. J'étais content, il y a eu un bon spectacle, m'a-t-il semblé, le but de la Lacazette sur la passe de Gomis qui avait auparavant pratiqué un joli grand pont était assez une belle action. Action à la Nantaise peut-être, une action de jeu juste peut-être. Donc voilà, enfin cette pièce non réconciliée, je suis en train de me demander, on pourrait encore beaucoup en parler, mais peut-être là une sorte de est-ce la mi-temps de la pièce, les publicités, est-ce que elles sont bien réalisées et vous avez fait, il y a donc un choix fait entre les cinq, c'est ça? Il me semble que ou bien on fait la deux ou alors on fait la cinq. Ces publicités,
elles sont encore écrit ça sur le.
J'ai cette version du texte.
On en fait quatre. Oui, on voulait jouer l'émission alors, de radio.
Là
de
pour
TV.
Le coup, c'est pas du foot. Hein.
Non, c'est pas du foot. Elles ont quand même un point commun, ces quatre publicités. Ces quatre ou cinq publicités, si on les regarde de près, c'est qu'elles, subrepticement, elles parlent d'économie. Elles parlent de comme quoi la pièce tient un peu son sujet. Mais à la base, chez moi, ça venait d'une autre motivation qui préside à cette pièce, qui serait plus formelle et qui regarderait davantage mon rapport au théâtre. C'est que j'aime bien l'idée qu'on fasse entrer au théâtre, je suis pas le premier, c'est pas vrai, c'est pas de geste révolutionnaire là-dedans, mais des formes qu'on appelle entre nous avec Mathieu des formes impures. Et oui, par exemple, faire rentrer l'émission de radio, la mettre sur un plateau, une émission de radio un peu, je dirais, bas de gamme, quoi, un peu RMC pour aller vite, c'est une opération théâtrale, quoi. C'est un geste théâtral. Faire rentrer des pubs, c'est-à-dire l'autre partie de ma culture, c'est-à-dire moi j'ai lu Shakespeare, j'ai lu Beckett, je suis allé un peu au théâtre, beaucoup même depuis une décennie. Oui, mais quand j'avais 17 ans, je lisais Beckett, mais je regardais les nuls à la télé. Et ouais, je fais partie de cette génération-là. Et je n'ai jamais tranché dans l'importance que j'accordais entre l'un à l'un et à l'autre. Et j'aime assez que mes travaux écrits portent la trace de cette impureté, de cette hybridation. Donc oui, j'aime assez que dans cette pièce, on puisse un moment intégrer cette forme très très impure qui s'appelle la parodie de publicité.
Le tour opérateur Goldman Sachs. Voyager autrement avec Goldman Sachs, tour opérateur depuis 1869.
Oui. C'est quelqu'un qui se dit, c'est un narrateur de la pub qui dit, non mais moi visiter la Grèce ça m'intéresse pas parce que c'est la Grèce, je la possède, enfin c'est à moi en fait l'acropole, bon voilà, d'ailleurs je crois que je vais faire construire une véranda, enfin bon je déflore un peu la publicité, mais c'est pour attirer des gens nombreux vers les Célestins.
Donc de l'impureté, mais alors, voilà, enfin, nous revenons à cette chose, non pas à laquelle je tenais, mais c'est cette idée que oui, dans cette pièce, c'est après tout tout à fait normal, il y a beaucoup de vous, puisque c'est vous qui en êtes l'auteur, et puis parce que dans une œuvre, de quoi peut-on parler si ce n'est quand même beaucoup de soi-même. Que dire encore pour parler de... Est-ce que nous avons peut-être quelques mots sur cette figure de Gilles Bienheureux, qui en plus est censé représenter, qui est partisan de cette ville de Lyon. À la réflexion, c'est vrai, je suis en train de me le dire maintenant, c'est peut-être celui qui s'en tire le moins bien, parce que justement, il est un peu tendre, un peu fade, peut-être un peu. Marcel, lui, je crois que ça va. Le type, le débatteur, le débattiste, qui est de plus en plus déçu, ça apparaît dans les didascalies. Là, il est vraiment miné. Rabage, on l'a nommé. C'est donc celui que vous jouez, que vous incarnez. Sarah Stroop, d'ailleurs, distribution, qui joue le rôle. Vous avez.
Eh bien, c'est une comédienne qui s'appelle Émilie Caplier, qui remplit très très bien sa fonction. Comme tous les autres d'ailleurs, je le dis, c'est difficile de pas tomber quand on parle de distribution dans laquelle on est soi-même, dans cette espèce de consensualisme très très pénible des comédiens, vous savez, non mais le tournage était merveilleux.
Non mais voilà, enfin vous entendez bien,
c'était des rencontres.
Vous êtes quatre et puis
en tout cas on s'entend bien, on rigole bien et je suis ma foi très content de ce que font les autres de mon texte, quoi. Je trouve qu'il le porte très très bien. Est-ce que Gilles Bienheureux est celui qui s'en sort le moins bien? Ben ma foi, moi j'aime bien Brecht, hein, vous savez, donc j'aime bien quand même un moment que la balle passe dans le camp des spectateurs, quoi, et que, ben ma foi, c'est à eux de trancher. Peut-être que certains Lyonnais trouveront qu'on...
Non mais, enfin, dans la mesure où justement, on n'a pas vraiment d'opinion sur lui, il n'est pas foncièrement mauvais, ni méchant, il n'est pas non plus bon, enfin du moins il...
Ben mais c'est...
Les autres sont assez marqués,
c'est
peut-être
lui-même. C'est justement un petit peu ce qui est... À un moment, Sarah Stroop fera le portrait de la bourgeoisie, une espèce de portrait un peu psychologique de ce que c'est qu'un bourgeois, mais c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire le bourgeois n'est pas celui... Ça c'est fini, la bourgeoisie du 19e, là j'écoutais récemment une très longue émission sur la Commune, là on avait affaire à des bourgeois qui n'avaient n'avait pas peur de dire que réprimer la commune, c'était vraiment réprimer la plèbe, parce qu'il était absolument hors de question que la plèbe s'octroie quelque pouvoir que ce soit. Maintenant, nous avons affaire à des bourgeois. Ils ont appris à se masquer. Et alors, c'est pour ça que Brigitte Bienheureux n'est pas du tout quelqu'un qui va asséner des dogmes. C'est plutôt quelqu'un qui va dire, mais écoutez, arrêtons, ne nous énervons pas. Je veux dire, on peut s'entendre. Vous voyez, c'est Xavier Bertrand. Vous voyez, c'est vous voyez un petit peu cette créature-là. Donc, c'est un bourgeois plus subtil, quoi, plus masqué, plus malin, et qui ne va pas répondre à Sarah Straub. Non, non, vous avez tort, il n'y a pas de lutte des classes. Qui va plutôt lui répondre, écoutez, on peut s'entendre. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de gueuler. Je veux dire, nous sommes tous embarqués dans le même bateau de la crise, etc. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé bienheureux, c'est-à-dire qu'il joue l'apaisement, et il a tout intérêt. Les dominants veulent toujours jouer l'apaisement. Dès qu'on a un peu de pouvoir, le premier discours d'un président de la République, le lendemain de son élection, c'est toujours d'appeler à l'unité. Parce que quand on a le pouvoir, évidemment, on a toujours intérêt à l'unité. On a intérêt à diviser pour mieux régner, mais on a intérêt à ce qu'il y ait unité autour de soi-même. Donc, l'accalmie, c'est toujours un discours de dominant. Alors que la guerre, la polémique, enfin en tout cas le conflit, le clivage, l'idée qu'il y ait du dissensus, comme dit Jacques Rancière, c'est une idée de dominer. C'est ce que dira un moment Sarah Straub, parce que Bienheureux lui reproche de crier, arrête de crier pendant le débat. Mais oui, mais elle dit, mais les dominants ne crient jamais, ils n'ont pas besoin de crier, contre quoi crieraient-ils? Mais il est vrai que par ailleurs, parfois crier est assez ridicule, il y a une espèce de ridicule de l'indignation, et c'est là que la pièce se retourne un petit peu. C'est l'objet du dernier monologue de Sarah Straub que je ne peux pas trop déflorer pour le coup.
Sarah Straub, on l'aura compris, c'est celle qui tout de même, autant je voulais dire, ou disons, il me semblait que Gilles Bienheureux était peut-être le personnage qui s'en sortait le plus mal. Sarah Straub est celle qui trouverait donc grâce à vos yeux, parce qu'en fait elle porte un autre nom. Vous avez nommé tout à l'heure la commune, je crois que c'est un peu plus tardif, puis ça se passe en Allemagne. Vous, à travers elle, vous voyez Louise Michel. Non, ça n'est pas Louise Michel, vous voyez plutôt...
Je disais Rosa Luxembourg tout à l'heure, mais j'aurais très bien pu dire Louise Michel, enfin en tout cas une figure de femme, disons, de gauche. Voilà, ce qui me paraissent deux qualités fondamentales, mais non, par ailleurs c'est une femme, quoi. Je dirais ça, à un moment avec Mathieu on s'était dit, mais cette rhétorique là de plateau de télé, de plateau de radio, cette rhétorique politique, la joute verbale politico-sportive, c'est un sport masculin, c'est un sport phallocratique. Et à un moment je me suis dit, mais justement, celle qui à un moment coupera un petit peu cette affaire-là, à la fois il participera complètement, hein, au tout début, elle joue complètement le jeu de « on refait le monde, on refait le match », il y a quand même un moment, elle va casser le débat et elle va l'emporter vers autre chose. Et c'était important pour moi que ce soit une femme, parce que avec cette idée que quand même cette espèce de rhétorique me paraît vraiment un attribut fondamentalement masculin. Ce qui ne veut pas dire que certaines femmes, quand je vois Nadine Morano sur un plateau de télé, je me dis que décidément certaines femmes sont parfois extrêmement brillante dans des sports phallocrates. Mais je dirais que, disons, la parole politique, la parole, j'en ai même fait un livre qui s'appelle « Deux singes ou ma vie politique » où je racontais un petit peu mon autobio politique, et je disais à quel point mon entrée en politique à moi avait été une façon de former le petit garçon que j'étais, quoi. Je crois que la politique, elle a vraiment, quand elle est négociée de cette façon-là, c'est-à-dire de la pire des façons, c'est-à-dire le débat, la télé, tout ça, pour moi, c'est un sport de petit coq. Et donc voilà, je voulais absolument qu'il y ait un des comédiens soit une femme, un des personnages soit une femme, pour qu'à un moment ça se désaxe vers autre chose, vers, disons, une forme de politique plus consistante, plus profonde, qui est vraiment pour le coup quelque chose à voir avec le réel.
Des petits coqs sexistes, la première réplique qui est là, on ne peut pas mieux, on ne peut mieux, je vais tâcher d'être digne de cette flatteuse présentation. Et Pirandelli lui dit, ah, on me signale que votre micro a un petit problème, réessayez voir. Elle s'apprête à reparler et elle est interrompue dans cette première réplique. À cette lecture, je me suis dit, ah ben mince dingue, c'est un plateau intéressant, le débatteur, enfin du moins celui qui mène le débat, ne laisse même pas les femmes s'exprimer, il ne les laisse faire que dans la mesure où il peut constater que leur son est très bon. Je vois apparaître Gravity qui est évoqué dans cette pièce. Pourquoi je souhaite en dire seulement un mot? Parce que j'ai vu ce film quand il est sorti, je l'ai vu même, j'ai pu assister à une avant-première, enfin, On pourrait sûrement en parler dans le système, je ne sais pas comment le nommer, le système consumériste, là, le procédé de l'avant-première, à quel point c'est une sorte de vaste blague. Et en sortant, un camarade, un bon ami, un collègue, je l'avais entendu indiquer à quelqu'un qui lui demandait alors qu'est-ce qu'on a pensé, il avait répondu efficace. Et j'ai trouvé que le terme était vraiment très bon parce qu'il me semble à la fois peut-être flatteur, c'est un film efficace, ça marche bien, beaucoup de musique, tout ça, mais il me semble également certainement péjoratif pour indiquer que voilà, Gravity, c'est un beau spectacle, mais il n'en reste pas grand-chose.
Ah, moi, je dirais pas ça, moi. Je serais plus nuancé parce que je pense que le film porte très très bien la splendeur et la misère du cinéma américain de dimension mondiale. Je pense que la première demi-heure, qui est sans musique, voilà, contrairement à ce que vous venez de dire, qui est extrêmement flottante,
la musique est trop présente à la fin,
qui est extrêmement en apesanteur et vraiment prodigieuse. Oui. Je veux dire, je crois
que c'est un peu à l'emporte-pièce.
C'est ce que 2001 aurait pu être si c'était vraiment le grand film qu'on dit qu'il est, le film de Kubrick. Et puis après, effectivement, on est rattrapé par tout un tas de choses dans la musique, la psychologie, j'ai perdu ma fille, tout ça. Et donc le film se...
Georges Clooney qui réapparaît.
Le film s'affaisse totalement. Mais la première demi-heure, alors vraiment, c'est vraiment ce que les Américains peuvent produire de plus beau quand ils se mettent vraiment à être très très forts. Parce que le cinéma américain, c'est comme le sport. On peut pas le balayer d'un revers de main. C'est pas possible. Je veux dire, ou alors là, on devient très très bête. Moi, je me souviens quand je faisais du punk rock, des gens refusaient d'écouter NoFX parce que c'était un groupe américain. Alors là, je disais, les gars, là, bon, bah, si vous voulez, hein, vous pouvez toujours vous passer de ce genre de plaisir. Mais alors, bah, franchement, vous n'irez pas loin.
Je voulais évoquer Zabriskie's Point avec, j'ai des titres là que nous pourrions écouter, Punk je crois, 1997, enfin différentes choses. Nous n'allons pas écouter cela, peut-être...
Et épargnons les oreilles des auditeurs, peut-être. Je veux dire, qui déjà ont subi ma voix pendant une heure.
Peut-être on pourrait écouter à peine les Pixies, vous parliez du cinéma
américain. Ah bah non, si c'est ça l'alternative, non, mais je suis pas d'accord.
Justement,
non,
mais c'est qu'en fait, leur tourne...
Non, passons à un autre titre de Punk.
Leur tourne, et ce que je vois, c'est qu'on va pouvoir écouter que 30 secondes. Ce titre des Pixies ne marche pas du tout, c'est un titre du nouvel album, je vois que ça dure de 4 minutes 39, avec chacune des chansons Where is my mind.
On avait quelques-unes à une époque, mais
peut-être à 3 minutes 5, mais ça ne dépasse pas les 4 minutes.
C'est surtout pas possible de jouer du rock à 55 ans, je veux dire, il faudrait vraiment s'y faire à cette idée.
Donc en fait, ou alors non, peut-être même pas, puisque ces Pixies se trouvent, si vous souhaitez écouter cela, auditeur, eh bien, acquérez donc, mettez la main sur le magazine des Inrecuptibles, hein, printemps 2014, volume 2, CD 15 titres, c'est la deuxième piste. Je crois plutôt, j'aperçois Pascal de l'émission du blues des Canucari, donc plutôt ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, eh bien, le générique de fin. Je vais vous dire au revoir. Alors, est-ce que vous auriez peut-être, je sais pas, des annonces à faire? Vous êtes à Lyon pour cette pièce. Allez-vous en profiter pour peut-être dimanche soir, puisque c'est répit. Vous jouez à 16h30. Allez-vous sortir, je ne sais quoi, aller voir des opéras. Il y a le festival Britain, ou bien Perceval est donné au TNP actuellement. Vous avez des connaissances lyonnaises, vous allez
quelques-unes que je compte bien voir, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie. J'attends avec impatience cette semaine qui va être rigolote, je pense.
Une semaine rigolote. Bon, je pense qu'il est temps de faire écouter le générique de fin et puis nous allons nous dire au revoir et je crois que oui, ben ça doit être tout. Et bien voilà, spectaculaire, ce mercredi 16 avril 2014 s'achève. La pièce non réconciliée de François Bégodeau qui était avec nous, il est encore avec nous. Cette pièce commence ce soir et se termine samedi 26 avril à la Célestine à 20h30. Merci beaucoup François Bégodeau pour tout ce que vous nous avez dit, vous concernant vous-même, concernant la pièce, concernant la politique, le football.